et le salua de la main. Parrish agita également la sienne. Et elles disparurent. À 20h45, Frank Parrish était dans sa cuisine. À 21h30, il avait vidé un tiers de sa bouteille et il se contenta d'une boîte de thon, trouvée au fond d'un placard. Chapitre 18. Samedi 6 septembre 2008. Parrish se réveilla avant 9h. Depuis la fenêtre de sa salle de bain, le ciel avait 5 nuances de gris et conférait à la journée une atmosphère de déception avant même qu'elle ait commencé. Il se rappela le rapport d'enquête en cours qu'il était censé rédiger. Le sergent Valderas lui passerait le savon de l'année si ce n'était pas fait d'ici midi. Mais Parrish n'arrivait pas à penser à autre chose qu'à Rebecca et aussi à Karen. Le soir précédent, il avait fait le point sur l'affaire. Mais le problème avec la lucidité du buveur, c'est qu'elle était brève, et que les instants de clairvoyance ne duraient pas. Parfois parce que trop de pensées se bousculaient, à d'autres moments parce qu'une seule idée semblait écraser toutes les autres considérablement. L'explosion qui recouvrait l'incendie. Au plus fort de ses méditations, Frank résolvait son mariage, les désillusions de sa carrière, le conflit avec Caitlin. Il trouvait même sa raison d'être. Tout était parfaitement limpide, jusqu'au lendemain matin. Parfois l'alcool transformait ses pensées en rêves, ou la plupart du temps, en cauchemars. Il savait qu'il avait changé, qu'il était devenu aigri, voire cynique. Comme si la personne qu'il était autrefois était emprisonnée ailleurs, arpentant de long en large une pièce inconnue, attendant patiemment d'être libéré. Il semblait éprouver le besoin étrange d'examiner les recoins les plus sombres et les plus cachés du monde. Non seulement ça, mais aussi d'y plonger les mains et d'en extraire la noirceur. Et c'était ça qu'il figeait sur place, tandis que le reste du monde avançait. Claire, Caitlin, Robert, ils avaient tous avancé. Pourtant, lui continuait de se flageller et de faire du surplace. Frank Parrish attaquait chaque nouvelle affaire avec un espoir renouvelé. Un espoir gros comme Noël. Toutes les enquêtes criminelles étaient réactives. Il ne se passait rien jusqu'à ce que quelqu'un meure, et alors tout s'enchaînait. Et 24 ou 48 heures après l'événement, tout commençait à refroidir et à s'assécher. Les témoins potentiels revenaient sur leurs déclarations. Le besoin humain qui vous poussait à dire ce que vous aviez vu, ou même ce que vous croyez avoir vu, se transformait en un instinct basique de préservation. Mieux valait ne rien dire. Mieux valait ne pas s'en mêler. Certaines vérités avaient été si bien dissimulées qu'elles en devenaient sacro-saintes. Certaines affaires ne seraient jamais résolues. Il pensait souvent à ceux qui survivaient, qui d'une manière ou d'une autre étaient parvenus à négocier les maladresses de l'enfance. Ceux qui étaient tombés de haut et n'avaient rien tiré de leur expérience, hormis des bleus et la peur du vide. Les gens souffraient de peines de cœur, de mariages désastreux, de familles désagrégées. Il avait passé trop d'années à intervenir dans des foyers où la violence était le premier recours. D'abord les coups, la discussion plus tard. Ou alors, simplement les coups, jamais de discussion. Des crimes passionnés, de circonstances, des crimes de l'erreur humaine. Et il survivait à tout ça pour simplement finir tué sur le coup par un conducteur ivre ou un agresseur opportuniste. À un instant, ils étaient là, et la seconde d'après, ils étaient morts. La scène était passée au crible, puis les cordons étaient remballés, les pompiers nettoyaient le trottoir au jet d'eau, et le monde reprenait ses droits. Et en règle générale, ces crimes étaient sans rime ni raison. Rares étaient les meurtres prémédités et malveillants. Les dingues et les tueurs en série étaient une minorité. Le mobile et l'explication de la plupart des meurtres étaient simples. On tuait pour l'amour, pour l'argent, pour rien. Rares étaient ceux qui se faisaient assassiner pour assouvir le plaisir d'un tueur. Parfois dans le métro, il observait les gens. Il les regardait discrètement et se demandait lesquels ne vivraient pas jusqu'à Noël. Alors même que ceux-ci songeaient aux complications de leur vie, soupesaient leurs options, élaboraient des projets, toutes ces considérations étaient vaines et superflues. Ils seraient morts avant leur prochain anniversaire. Peut-être son comportement trahissait-il une nature pessimiste, mais il lui permettait de ne pas oublier la fragilité des choses. Et toute la noirceur qu'il avait découverte ne l'empêchait pas de continuer de chercher. Mais peut-être avait-il tant cherché qu'il était devenu insensible, qu'il avait cessé de percevoir la noirceur pour ne plus voir que des ombres. Pour ce qui était des homicides, les 12 premières heures étaient cruciales. Après ça, les morts cessaient de parler. Les indices étaient détruits. Les conspirateurs concoctaient en commun un alibi plausible. Les armes disparaissaient dans les profondeurs insondables de l'East River ou de Maspeth Creek. Il fallait faire vite. Et pourtant, elles pouvaient nuire à la minutie et à l'attention aux détails. Le secret résidait dans l'équilibre, mais cet équilibre était si souvent bancal. Et plus tard, quand le moment venait de réfléchir au calme, on avait toujours le temps de songer à ce qu'on aurait pu mieux faire. Mais que chantait Jackson Browne? Qu'il était inutile d'être placé face à ses échecs, car on ne les oubliait jamais. Durant son mariage, Frank Parrish avait essayé de se voiler la face. Alcool, en Belgique, d'abord 3 ou 4 cachets, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à faire taire ce qui l'empêchait de dormir. Regarde la vérité en face, Frank. Boire n'a jamais été bénéfique à personne. L'écho de la voix de Claire dans sa tête. Puis les enfants étaient arrivés, surtout Caitlin. Caitlin avait été sa conscience, son salut, sa rédemption, mais aussi le miroir de sa culpabilité. Caitlin était sa nuit la plus sombre, son jour le plus lumineux. La lumière la plus vive projetait toujours l'ombre la plus noire. Et ses autres ombres? Les ombres de son échec en tant que père. Pour lui, c'était l'endroit le plus sombre de tous. Ce matin-là, il sauta le petit déjeuner. Il quitta son appartement peu avant 9 h et emprunta l'ascenseur. Une fois encore, il tomba sur Madame Langham et Grace. Et une fois encore, Grace fut réprimandée parce qu'elle regardait fixement le monsieur. Mais Grace continua de regarder Parrish, comme s'il portait dans les plis de son visage tous les secrets du monde des adultes. Madame Langham paraissait cependant gênée. Elle semblait vouloir dire « Veuillez excuser ma fille, elle n'est pas embarrassée, et vous non plus, mais pour une raison, pour une autre, moi, si. » Parrish se contenta de lui sourire, et lorsqu'il fit un pas en arrière pour les laisser sortir, il lança « Au revoir, Grace, passe une bonne journée, d'accord ?» Puis il marcha jusqu'à la station et prit le métro en direction de Hoy Street. Dans la salle commune de la brigade criminelle, il trouva les inspecteurs qui étaient de service pendant le week-end. Paul Hayes, Bob Welland, Mike Rhodes et Steve Pagliaro. Après avoir marmonné quelques saluts et lancé des vannes de rigueur, Parrish se rendit au fond de la pièce et observa le tableau. Date du début de l'enquête, nom des inspecteurs en charge, une série de cases qui étaient cochées à mesure que les obligations administratives étaient remplies, scène de crime, rapport du coroner adjoint, autopsie, recherche de traces de viol, toxicologie, une case, intitulée « Suspect », qui n'était cochée que si quelqu'un était amené au poste avec la possibilité réaliste d'une inculpation, et tout au bout, une case dans laquelle figurait un chiffre qui augmentait chaque jour que l'enquête demeurait active. Et quand l'affaire était close, cette case était marquée d'un X noir. Les X noirs étaient ce que le lieutenant Meyerson et le capitaine Averso attendaient de voir dans le rapport journalier du sergent Valderas. Le rapport sommaire d'enquête en cours était rédigé par chaque inspecteur responsable d'une enquête à la fin d'un service complet, que celui-ci soit de 3 jours, 5 jours ou 2 h 30 dans le quart d'heure supplémentaire. C'était un processus laborieux qui permettait de redéfinir chaque homicide et reprenait en 1 ou 2 paragraphes tout ce qui avait été entrepris jusqu'à présent. Entretien mené, présence d'un suspect éventuel, interrogatoire au commissariat, résultat de ces interrogatoires, et ainsi de suite. Parrish avait toujours des affaires en cours, mais pour lui c'était simple. Rebecca n'était ni prostituée, ni dealeuse, ni voleuse. Elle n'était pas censée être exposée au même risque que les autres. Vous mettiez les pieds dans l'industrie du sexe, et vous attiriez les barges et les pervers comme des mouches. Et si vous débarquiez de votre cité avec les poches pleines de crack, et que vous cherchiez des noix à quelqu'un, que vous arnaquiez quelqu'un, il était logique que vous vous retrouviez avec une lame de 12 cm dans la gorge. Danny Lange était junkie. et avec